Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry.
Et bonjour Émilie.
Alors aujourd'hui, direction les États-Unis avec les grands enseignements de la campagne électorale.
Voilà, on va prendre un petit peu de recul avec notre invité Pierre Mulandry, professeur des universités à Sciences Po, qui vient de faire paraître un ouvrage intitulé « Le siècle américain, une histoire ». C'est chez Perrin, c'est un livre somme, près de 700 pages. La campagne présidentielle américaine est particulièrement originale, on le sait, hélas pour de mauvaises raisons. Alors par-delà la personnalité et le programme de chacun des deux candidats, cette campagne peu ragoûtante à mes égards a montré les limites de l'exercice, sans compter, il faut toujours le rappeler, les sommes vertigineuses englouties dans ce que l'on pourrait appeler un spectacle. Alors les conséquences possibles sur la vie politique partisane sont intéressantes évidemment à analyser. Commencer par le parti républicain confronté à une poussée de droite extrême, voire d'extrême droite, cela ajouté à un populisme qui n'a rien à envier à celui que nous connaissons en Europe. Alors dans quelle mesure le parti républicain sera-t-il malmené si Donald Trump perd? Et puis la santé du parti démocrate dépendra sans doute des législatives concomitantes. À ce stade, la candidate Hillary Clinton ne représente en rien le renouveau. Donc, c'est une élection tout à fait spécifique. Pierre Mulandry.
Oui, je crois d'abord qu'il faut voir que cette élection sanctionne la fin de ce qu'on a pu appeler le siècle américain. D'abord, sans doute, parce que pour la première fois, le candidat d'un grand parti a remis en cause la nature unique des États-Unis. Certes, pour Hillary Clinton, ceux-ci restent toujours une nation exceptionnelle du fait de leur force militaire, du dynamisme de leur économie et surtout de leurs valeurs. Ils sont donc la nation indispensable à qui il revient de guider le monde. Mais pour Trump, qui a choisi pour slogan « Let us make America great again », l'Amérique précisément n'est plus grande. Pire, elle est comme assiégée en proie au terrorisme, à une invasion d'immigrants sans papier, à une vague montante de criminalité. Et dès lors, elle doit se garder de donner des leçons et a fortiori de vouloir refaire le monde, mais au contraire se replier sur une défense agressive du type America First de ses intérêts. Sa grande métaphore, c'est le mur. Elle doit négocier au prix fort la stabilité qu'elle fournit à grands frais au reste du monde. Je pense, a-t-il dit, que nous avons été un pays très puissant, très riche, et nous sommes un pays pauvre désormais. Nous sommes une nation endettée. À ses yeux, l'Amérique est finalement un pays moins exceptionnel qu'ordinaire. Deuxième raison pour laquelle on a finalement une sanction de la fin du siècle américain, les candidats des deux partis, l'un comme l'autre, ont rejeté à travers le TPP, le partenariat transpacifique, cette quête d'ouverture toujours plus large des marchés que précisément depuis la Seconde Guerre mondiale, la politique américaine n'avait cessé d'impulser. Enfin, on ne peut être que frappé par le hiatus toujours plus grand dans cette élection entre d'un côté l'ampleur des enjeux et de l'autre la médiocrité, voire le caractère parfois affligeant des débats et des affrontements.
Alors il faut en parler, Pierre Mulandry. On a souvent cité les propos accablants pour lui-même du candidat républicain Donald Trump, qui parle d'ailleurs comme un chartier, qui a des réponses péremptoires à peu près toutes les questions. Mais évidemment, c'est un contraste tout à fait étonnant avec les enjeux qui sont considérables. Ils sont considérables parce que ce sont les États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, Madame Clinton a eu une phrase quasi républicaine en disant dans son dernier débat avec Donald Trump la semaine dernière, elle a dit « Les États-Unis sont, je cite de mémoire, nous sommes grands parce que nous sommes bons. On entendrait le président Bush fils. »
Oui, tout à fait, mais précisément, elle défend d'autant plus cet exceptionnalisme américain qu'il est remis en cause par son adversaire. Mais les enjeux sont importants. D'abord, évidemment, vous venez de signaler Hillary Clinton. Quand même, on a un peu oublié, mais c'est une chance pour les États-Unis d'élire pour la première fois une femme à la Maison-Blanche. Ensuite, au-delà de la Maison-Blanche, il y a les deux chambres du Congrès qui pourraient être en jeu, en particulier le Sénat. Et si le Sénat devient démocrate, on verra les répercussions sur la Cour suprême, elle-même, dont on a vu au cours des dernières années l'importance du rôle sur divers dossiers majeurs comme le rôle de l'argent dans la vie politique, la réforme du système de santé, la politique d'immigration, le réchauffement climatique. Mais je dirais qu'il y a finalement peut-être un dernier grand enjeu dans cette élection, c'est le risque de voir un des deux grands partis, en l'occurrence le Parti républicain, imploser.
Alors, justement, implosé. Il y avait déjà eu, d'ailleurs, il avait été secoué par le Tea Party il y a combien d'années environ? Une quinzaine d'années? Là aussi, je n'ai pas vérifié.
Non, la Tea Party remonte à l'élection d'Obama. En fait, elle est lancée, si je me rappelle bien, par Rick Santelli, quelque part en mars 2009. Ça fait donc effectivement 8 ans à peu près. Et elle part un peu comme un feu de paille à une vitesse tout à fait extraordinaire et va déjà influer les élections partielles qui ont lieu à la fin de cette année 2009 et évidemment l'élection de 2010 qui va faire figure d'un relatif triomphe pour le Parti républicain, même si le caractère extrême de certains de ses candidats l'empêche encore de véritablement conquérir le Sénat.
Alors vous parlez de dysfonctionnement, en quoi cette campagne révèle-t-elle, traduit-elle une évolution de la société américaine et même du système politique américain ?
Ben, je crois qu'une première explication de ce dysfonctionnement, n'est-ce pas, qui réjouit les adversaires des États-Unis, l'agent chinoise Xinhua n'hésite pas à qualifier l'élection, je la cite, de drame divertissant qui illustre le dysfonctionnement, précisément, du modèle mondial autoproclamé de démocratie, peut s'expliquer par trois facteurs. Une première explication relève sans doute du changement du paysage médiatique, le triomphe de ce qu'on appelle aux États-Unis l'infotainment, ce cocktail d'informations et de divertissement, de la faction, la fusion des faits et de la fiction, le rôle toujours plus grand aussi d'Internet et des réseaux sociaux, ont largement brisé le lien qui existait entre la réalité et la rhétorique, favorisé l'élection d'un Trump, ou plutôt la nomination d'un Trump par le Parti républicain. Trump était une célébrité de la télé-réalité et plus généralement débouché sur ce que l'on appelle la post-truth politics, une vie politique où la réalité n'a plus vraiment d'importance, où l'émotion l'emporte sur la raison et l'information, et où à force d'être répétées, des contre-vérités finissent par s'imposer comme des faits. La deuxième explication, je crois que c'est le sentiment, reflété par l'expression « bring our country back », d'un nombre non négligeable d'Américains que le pays n'est plus celui auquel ils s'identifiaient. Ce sentiment a pu revêtir une dimension, on l'a bien vu, raciste, xénophobe. Il a pu procéder du refus de voir un Africain-Américain à la Maison Blanche. Après tout, Trump a été le plus célèbre des buffers. Il a pu procéder de la peur de voir les Blancs devenir minoritaires dans 2 ou 3 décennies aux États-Unis. Mais il a sans doute aussi résulté de la prise de conscience des mutations de l'Amérique au cours des dernières décennies, de la fin du siècle américain, du glissement de l'Amérique après 2 guerres perdues, après la montée de la Chine, du statut d'hyperpuissance incontestée à un rôle plus incertain de primus inter pares dans un monde globalisé et éclaté, mais plus encore, sans doute, cette prise de conscience a procédé de l'impact de l'ouverture des frontières et des marchés à laquelle le siècle américain s'est identifié sur le rêve américain lui-même, sur le modèle de société auquel l'American Way of Life était associé, au modèle aujourd'hui pulvérisé par le creusement abyssal des inégalités et par la substitution à travers la globalisation, la robotisation, la désindustrialisation pour les Blancs avec au mieux une instruction secondaire, à un passé fait de croissance et de sécurité, d'un avenir qui semble devoir être dominé par la stagnation des revenus et par la précarité.
Alors, juste d'un mot, et on arrive malheureusement à la fin, Pierre Mélandry, et je rappelle que vous avez justement publié Le siècle américain, une histoire qui vient de sortir chez Perrin, et qui est un livre somme qui sera utilisé par nombre d'entre nous et beaucoup d'autres. En ce qui concerne le Parti républicain, juste d'un mot, est-ce qu'il peut être plus que malmené? Si, en cas d'échec, évidemment, de Trump.
Oui, je crois que le problème du Parti républicain, c'est que depuis les années 70, il avait réussi l'exploit d'avoir pour principale raison de servir les gagnants de la globalisation, et pour base électorale, les principaux perdants de la globalisation. Longtemps, ses responsables avaient pu surmonter cette contradiction en imputant de façon subliminale la rétraction des perspectives économiques des Blancs de conditions modestes à la montée des minorités, en canalisant la rage que le triomphe de la modernité pouvait engendrer. Mais c'est ce jeu que Trump est venu briser. Il a exploité les frustrations toujours plus grandes, voire le sentiment de trahison des militants devant l'impuissance du parti à réaliser les objectifs qu'il leur avait laissé enterrer, mais aussi leur angoisse devant les retombées de la globalisation et de la désindustrialisation. Bref, il a à la fois surenchéri sans doute dans la dénonciation des étrangers de l'immigration, mais renverser les positions du parti sur deux dossiers clés, l'ouverture internationale des marchés, la remise en cause des droits acquis pour les salariés. Bref, il a rompu avec ce qui était jusqu'ici l'orthodoxie du parti.
Pierre Mélandry, professeur des universités à Sciences Po, donc encore une fois, son ouvrage Le siècle américain, une histoire chez Perrin, franceculture.fr pour écouter l'émission et la télécharger.
Merci Thierry, et demain il sera question de la bataille de Mossoul dans les enjeux internationaux.
Oui, et même par-delà cette bataille, du sort surtout de l'État islamique avec notre invité Hugo Micheron.